Europe 1.
Et on retrouve comme promis Jacques qui nous appelle de... Alors je ne sais pas d'où... Ah oui, de Paris 15e. Bonjour Jacques.
Bonjour, oui.
Alors vous voulez nous parler d'une langue, c'est très intéressant et voilà. Je vous avoue que je ne la connaissais pas cette langue, vous allez tout nous dire. Ça s'appelle la langue espéranto.
Voilà, alors tout à fait. C'est une obsession pour moi parce que il existe une réalisation qui n'a que des avantages, dont on ne se sert pas, et qui est pour améliorer la vie de beaucoup de personnes et que les gens ne connaissent pas.
Voilà. Bah, je vous avoue que moi, je ne la connais pas. Expliquez-nous
voilà,
alors.
Peut-être effet de situation. Hein. Donc, nous avons fait l'Union européenne maintenant. Alors, l'Union européenne, parmi les symboles qu'elle a, il y a le drapeau, il y a la musique, c'est la 9e symphonie, la journée de l'Europe, c'est le 9 mai, il y a une devise, c'est l'euro, hein. Il y a 24 langues officielles, et malgré tout, il n'y a aucune langue commune de communication entre nous.
Vous voudriez avoir comme pour l'euro, la monnaie unique de l'Europe, vous voudriez avoir une langue unique.
Voilà, exactement. C'est-à-dire une langue commune, c'est-à-dire chaque pays garderait sa langue propre, on ne veut pas substituer les autres langues, mais en fait, c'est une langue de communication. Moi, maintenant, je suis à la retraite, j'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger, et bon, en Asie, dans d'autres pays, et j'ai toujours eu un problème, et tous les gens qui voyagent ont un problème de langue. Et on peut dire, alors, donc, on se sert de l'anglais dans la... Bon, parce que c'est le dénominateur commun. Mais je veux dire, c'est pas si facile que ça. Parce que vous allez au Japon. Moi, j'étais au Japon. Eh bien, j'avais l'impression que les Japonais, d'après ce qu'on entend, que les Japonais sont proches des Américains, la culture américaine et quoi que ce soit. Et en fait, ils parlent bien l'anglais. Eh bien, c'est pas vrai du tout. Mmh. En Chine, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup d'endroits en Amérique du Sud... C'est pas vrai non plus. Donc, c'est pas.
Bon,
on
mais,
peut pas dire que
bon,
c'est une langue
mais là, dans ces pays,
internationale.
Mais Jacques, dans ces pays-là, la langue que vous proposez, l'espéranto, ne marchera pas, puisque vous parlez d'une langue européenne.
Ah ben, on ne sait pas, on ne peut pas. Ça pourrait très bien être une langue internationale et même mondiale.
Mais est-ce qu'elle existe ? Alors, est-ce qu'elle existe, cette langue,
oui,
espéranto ?
Elle existe. Alors, cette langue, elle a été créée. Si vous voulez, je peux vous faire un petit historique rapide. Elle a été créée il y a une centaine d'années par un médecin polonais qui s'appelait M. Zamenhof. Qui vivait en Pologne, et il était, donc la Pologne à l'époque a été sous domination russe, bon, il y avait beaucoup d'influence, une grande influence allemande, M. Zamenhof, il était juif, et donc il y avait des communautés qui se retrouvaient, vous voyez, à vivre ensemble, et très souvent il arrivait des situations d'incompréhension. Et dans les situations d'incompréhension, on se monte les uns contre les autres et il y a une sorte de haine et de problème entre tous. Mmh. Et il s'est dit, mais quand même, il y a un problème de communication, il faut essayer de trouver quelque chose qui nous rassemble, une langue commune qui puisse, on puisse partager nos mêmes idées. Et dans ces cas-là, bah, ça évite les heurts. Quand on arrive à se comprendre, ça évite, ça aplanit beaucoup de questions.
Alors, voilà. Il y avait en Europe de l'Est, il y avait une langue un peu commune qui était le yiddish.
Ben, il était juif, hein, donc oui. Il parlait aussi, il parlait du yiddish, il a parlé plusieurs langues, hein. Mmh. Donc il est parti au départ sur l'idée du latin, vous voyez,
ouais.
et tout compte fait, il a voulu simplifier, le rationaliser un petit peu, mais par contre, il s'est rendu compte aussi que le latin, il y avait une connotation religieuse derrière le latin, et il s'est dit, non, il faut trouver quelque chose, il faut créer donc une langue qui soit absolument neutre, vous voyez. Donc, il n'y a pas une influence ou religieuse ou d'un pays ou d'une puissance par rapport à ça. Et donc, il a créé donc une langue nouvelle en prenant dans son assemblage de langues, il y avait à peu près 75% de latin, 20% d'anglo-saxon, 5% de grec de slave. Il a fait donc une langue commune avec ça en prenant des racines communes de ces langues.
Et vous la parlez cette langue ou pas, Jacques?
Un petit peu. Bon, j'ai pas beaucoup l'occasion de la parler, hein, mais donc je connais en tout cas.
Qui la parle aujourd'hui? Personne ne la parle aujourd'hui?
Il y a trois, à peu près, grosso modo, c'est difficile à évaluer, mais il y a à peu près 3 millions de personnes qui la parlent.
Hein, ah, 3 millions de personnes en Europe? En Europe ou dans le monde?
Essentiellement dans les pays occidentaux, hein. Voilà.
Oui, mais et donc, pas seulement en Europe, alors, pas forcément en Europe.
Pas seulement en Europe.
Et alors, donnez-nous un exemple de mot, par exemple, comment on dit bonjour dans cette langue?
Salut.
Ah, voilà. Salut.
Ben, pour vous dire quelque chose, vous voyez, la lingua, esperanto, estas creita du docteur Zamenhof pour que la humaille de la tchoul populaï pour vous interchanger sian idéagne sen malfatsi george.
Voilà. On dirait donc, de l'italien et l'espagnol mélangé.
Oui, ben voilà, ouais. C'est ça, c'est très latin comme tendance, voyez. Alors, en plus, donc, il a rationalisé ça, parce qu'il parlait, il a parlé beaucoup de langues, hein, monsieur, il était multilingue, il parlait 7-8 langues différentes. Et donc, il a dit, il faut rationaliser une langue, qu'elle soit facile, parce que, bon, le français, c'est une très belle langue, mais le français, c'est assez compliqué, hein. Donc, il a fait une langue avec 16 règles de grammaire seulement. Il n'y a aucune exception. C'est une langue phonétique. Par exemple, le mot physique, on dit, donc nous on écrit physique, P-H-Y-S-I-Q-U-E, hein, et en esperanto c'est physico, comme ça se prononce, F-I-Z-I-K-O. Vous voyez ? Donc il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que tous les sons se prononcent et s'écrivent de la même façon. Voilà. Et donc il a mis ça sur pied. Et donc il était en Pologne. Il a commencé à communiquer avec différentes associations et groupes culturels et médiatiques aussi en Europe. Et il faisait tout ça, c'est vrai. Heureusement, il a épousé une femme dont les beaux-parents avaient de l'argent, ce qui lui a permis de financer un petit peu tous les cette mise en route de sa langue. Et alors, il s'en est passé, il y a eu un engouement qui s'est vite démarré, et il y a eu un congrès, le premier congrès international espéranto a eu lieu en 1905 à Boulogne-sur-Mer. Et il y a eu une vingtaine de pays représentés, avec 600 délégués, et c'est la première fois que des gens venaient et pouvaient tous parler ensemble, sans interprète, sans traducteur. Et c'était un moment formidable dans l'humanité, quoi. La tour de Babel s'est effondrée, et les gars pleuraient de joie et tout ça, ils s'embrassaient les uns les autres. C'est un moment de fraternité et aussi d'humanisme formidable.
Mais hein. Oui, et où est-ce qu'on pourrait l'apprendre aujourd'hui, cette langue, Jacques?
Alors, il y a des sites, hein, Esperanto, il y a Esperanto France, il y a plusieurs sites qui sont. Il faut regarder sur Internet, il y a pas mal de sites et il y a même des cours aussi. Bon, moi, j'ai commencé à l'apprendre tout seul. Il y a des méthodes rationnelles. Ça s'apprend facilement tout seul. Hein. Voilà. Je peux continuer un petit peu après, si vous voulez. Donc, en 1905, il y a eu ce congrès qui a eu un grand impact. Et ça s'est développé après un congrès. Ça a suivi en Suisse, et puis il y en a eu d'autres. Et ça a pris de l'ampleur de plus en plus, vous voyez. Et en 1914, il y avait un congrès qui devait s'établir à Paris, au mois d'août 14, et il y avait 5000 délégués présents, du moins attendus, et naturellement, c'est tombé, il y a eu juste la déclaration, la guerre de 14, et donc ça a complètement cassé le mouvement, ça n'a pas eu lieu, et donc ça a cassé un petit peu dans le développement de ça. En 1922, il y a eu la création de la Société des Nations, vous savez, après la Première Guerre, et il y a une dizaine de pays qui ont demandé à ce que l'espéranto soit considéré comme langue de travail. Mmh. Et alors, le fait quand même un peu ridicule, c'est que la France avait un droit de veto, et la France a mis son veto parce que la France voulait que ça pensait qu'il soit la langue internationale. Voilà, et donc ça a été rejeté. Bon, et ça a continué comme ça, ça s'est développé quand même un peu plus aussi. Et puis, il y a eu l'arrivée des régimes totalitaires, Hitler et Staline, qui naturellement étaient au courant des mouvements espérantistes et qui ont envoyé les espérantistes ou au goulag ou en camp de concentration, parce que pour eux, comme ils communiquaient facilement entre eux dans les différents pays, bah, c'était des espions, et donc des espions, des francs-maçons et tout ça, ils leur ont mis tout un tas de mots sur eux. Voilà, et donc ils en ont liquidé beaucoup.
Après
la guerre, eh bien, naturellement, il y a eu les Américains, bon, avec la victoire des Occidentaux, il y a les Américains qui ont présenté le plan Marshall. Le plan Marshall avec toutes les conséquences économiques et tout, et avec le commencement de la domination de la langue anglaise. Et puis, ça s'est accentué au fur et à mesure, et maintenant, ça devient maintenant. L'Union européenne a marqué dans sa charte que les langues étaient toutes à égalité et était équitable, mais en fait, la domination, c'est que maintenant, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Oui, alors c'est que vrai. Même l'Angleterre, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, et c'est l'anglais qui est la langue commune. Ça, c'est
ouais, même, ouais, parce, c'est que, même insensé. Parce qu'elle est, yeah. parce qu'elle n'est pas payée, elle n'est pas parlée qu'en Europe, elle est parlée dans le monde, et notamment dans les dominants des pays anglo-saxons.
Vous vous rendez compte l'avantage phénoménal que ça représente en dizaines de milliards d'euros d'avoir la domination linguistique, c'est-à-dire sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan culturel, vous voyez, c'est industriel, c'est diplomatique.
En tout cas, la langue
est phénoménale.
En tout cas, la langue.
C'est une domination. Hein, c'est une domination.
En tout cas, Jacques, la langue espéranto que vous nous avez donné quelques exemples par une phrase, c'était quoi la traduction d'ailleurs de ce que vous nous avez dit tout à l'heure
La langue espéranto a été créée par le docteur Zamenhof pour que les hommes puissent communiquer facilement entre eux.
C'est ce que vous nous avez dit dans cette langue.
Voilà,
eh bien, écoutez, le message est passé. Moi, je ne connaissais
alors,
pas
attendez,
cette langue.
Alors, attendez, mais je n'ai pas fini. Le coût pour l'Europe, hein, pour l'Union européenne, c'est 1 milliard de... Vous savez, il y a 5 000 personnes qui travaillent au niveau des langues, traducteurs, ouais. interprètes et autres, vous voyez, personnel administratif. Ça coûte quand même 1 milliard d'euros par an à l'Europe. Hein. Bon... Alors, juste, je voudrais vous dire, parce que là, pour vous dire, ne serait-ce, vous voyez, j'ai acheté un appareil technique, là, dernièrement, industriel, j'ai pris la notice, il y avait une notice en 30 langues, la notice, avec des fautes d'orthographe, des fautes de traduction. Bon, il y a plein de choses quand j'ai voyagé. Naturellement, bah, maintenant, vous allez voir les sites de l'UNESCO. Il y a, donc, c'est marqué, naturellement, les cartouches, la formation sont marquées dans la langue du pays et aussi en anglais. Mais c'est tout, point. Hein. Donc, si vous ne parlez pas l'anglais, vous trouvez des guides, ils ne parlent qu'anglais.
Oui, enfin, il faudrait maintenant parler l'espéranto, ce qui n'est pas non plus donné à
Exactement.
Tout le monde.
Exactement. Mais si tous les médias, non, mais monsieur, avec la puissance et la communication des différents médias, si les médias, au lieu de nous mettre 10 minutes, regardez combien de temps nous bassissent à la télé avec la météo. Bon, je veux dire, on nous met 5 minutes de à la place de la météo, on nous met 5 minutes d'espéranto tous les jours, à la télé, dans les journaux, dans les différents médias, bah, je peux vous dire qu'en 2 ans, toute l'Europe s'est parlé de l'espéranto.
Jacques, le message... Jacques...
Non, mais attendez, j'ai pas fini.
Non, non, mais là, on a d'autres auditeurs.
En 250 heures.
Jacques, c'est fort intéressant ce que vous nous dites. On a d'autres auditeurs qui appellent aussi et qui voudraient, qui
alors,
voudraient parler.
Juste une chose. Voilà, j'ai fait un site qui s'appelle LASPA, L-A-S-P-A, ouais. gaz.com. Donc, si les gens ils veulent des informations supplémentaires, laspa15.com.
Laspa15.com. Eh bien, écoutez, le message est passé, Jacques.
Que les auditeurs en parlent aux médias et disent pourquoi c'est un sujet tellement important dont on ne parle jamais.
C'est ce que vous avez fait, Jacques. Et on vous a donné la parole ce soir sur la libre antenne.
Mon pauvre, je rame dans le désert.
Mais non, la preuve. Merci beaucoup.
Que les auditeurs se manifestent, ils appellent les médias pourquoi on ne parle pas du sujet crucial de la langue de communication entre tout le monde.
Eh bien, écoutez, vous avez parfaitement raison de le souligner. Merci pour votre appel, Jacques. À très bientôt. J'espère que votre appel aura un écho.
D'accord. Au revoir.